Cap-et-Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap-et-Cap avec Blandine Châtenay. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Pour cette émission, je vous invite à faire un voyage, pas très lointain, puisque nous allons à Revel et, plus précisément, à la librairie du Beffroi. Nous allons y rencontrer sa propriétaire, Blandine Châtenay, une libraire, une vraie, si je puis dire. Elle connaît admirablement ce monde si particulier et si nécessaire du livre. Alors, en route pour la librairie du Beffroi.
Blandine Châtenay, j'ai reçu un monsieur Châtenay qui est professeur à l'université de Bordeaux, qui écrit de très beaux livres. Blandine Châtenay, vous n'êtes pas loin des livres puisque vous êtes libraire et que vous me recevez chez vous, à Revel, à la librairie du Beffroi.
Exactement.
Merci déjà de m'accueillir, de prendre sur votre temps. Alors comment on décide de devenir libraire? Ça, c'est toujours la question qui m'interroge avec les gens de votre profession. Ça vous est venu comment ?
C'est mon parcours de vie, je vais dire ça comme ça. J'ai toujours lu, j'ai commencé très tôt.
Oui, moi aussi, mais pour autant, je ne suis pas libraire.
Et mon premier désir, c'était plutôt d'ouvrir une librairie jeunesse, parce que ça mêlait la peinture souvent avec des textes, et ce que j'aime particulièrement. Enfin, ce sont des univers que j'aime particulièrement. Et puis, il y a eu les enfants, et il y a eu la vie, et il fallait que je travaille. Je ne me sentais pas forcément, au début de mon histoire professionnelle, de me lancer toute seule. Donc, j'ai trouvé du travail à la FNAC, dans les librairies de la FNAC, et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivée à la librairie du Beffroi, qui est ma petite création à moi. Voilà.
Vous avez quand même passé 20 ans à la FNAC, c'est pas rien.
Oui.
C'était l'époque où la FNAC était véritablement la FNAC.
En tout cas, où les produits éditoriaux c'était la période de gloire des produits éditoriaux. Ça a changé avec l'arrivée d'Internet, ça a changé avec la dématérialisation de beaucoup de choses. Et la FNAC, est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Elle ne correspondait plus, en tout cas, à ce que moi, j'aimais dans le métier de libraire ou les autres métiers dans les produits éditoriaux, parce que comme j'ai évolué au sein de la FNAC, j'ai touché à d'autres rayons que celui du livre.
Vous seriez maintenant, vous vendriez des casseroles peut-être ?
Non, je serais quand même toujours en produits éditoriaux, mais du coup, je vendrais aussi du DVD, du disque, du jeu vidéo et accessoirement du livre aussi. Voilà.
Alors vous avez quand même beaucoup tourné, même à la FNAC, Paris, Bourges, Toulon, Aix-en-Provence, La Bêche, Toulouse. Vous avez quand même une expérience professionnelle bien établie.
Oui. Alors, Paris, c'était la FNAC Junior. À l'époque où ça existait encore, ça correspondait vraiment à ce que moi, j'avais envie de faire. C'est-à-dire, la FNAC Junior, c'était spécialisé en jeunesse. Et ils ne vendaient que des produits autour de l'enfant, de 0 à, on va dire, 12-13 ans, grand maximum. Ensuite, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, j'ai pris des congés parentaux et on a déménagé près de Bourges. Et là, je suis rentrée à la FNAC. Du coup, j'ai fait un transfert de société. Et à la FNAC, je suis arrivée au livre. Je suis rentrée comme renfort de fin d'année. Et ça, c'est... Enfin, je ne me voyais pas rester... simple vendeuse. Heureusement qu'il y a des vendeurs et heureusement qu'il y en a qui s'éclatent à être vendeur, mais moi j'avais envie d'apprendre beaucoup de choses afin aussi de pouvoir prendre mon envol personnel et d'avoir mon propre lieu.
Ah, vous avez attendu quand même.
J'ai attendu. J'avais besoin d'être formée, j'avais besoin de comprendre les tenants, les aboutissants, j'avais besoin de sentir que je maîtrisais le métier pour pouvoir me lancer. Et ça a pris le temps que ça a pris. Donc j'ai passé 15 ans dans une FNAC. J'ai évolué au sein de la FNAC pendant ces 15 années. Donc je suis partie du bas de l'échelle. J'aime pas dire ça, mais c'est comme ça que c'est découpé. Du bas de l'échelle pour terminer cadre à la Bège avant de racheter ma propre librairie.
Comment vous êtes décidé à foncer, à dire je prends mes risques, je vais...
En fait, ça s'est fait très simplement. Quand je suis arrivée à la Bège, j'ai passé de très bonnes années en tant qu'encadrante à la Bège, avec des équipes très très chouettes et des vrais libraires. C'était très très bien. J'ai rencontré quelqu'un qui est ma moitié actuellement, qui vivait lui à Revel, et lors d'un dîner entre amis, on m'a présenté la meilleure amie de la propriétaire de la librairie que j'ai rachetée. Et cette meilleure amie, après discussion, a parlé à la propriétaire de la librairie en lui disant « J'ai trouvé la personne qu'il te faut pour reprendre la librairie. » On s'est appelé.
Elle devait être contente d'ailleurs, parce que c'est quand même pas évident de trouver un repreneur.
C'est pas évident. Elle avait eu quelques offres, mais je pense qu'elle avait aussi envie de choisir la personne qu'elle mettrait à sa place. Et après quelques entretiens et quelques discussions, elle m'a dit « Ok, je pense que ce sera toi ». Et donc, ça s'est enchaîné. J'ai présenté les bilans à la banque. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir racheter la librairie. Mais ça s'est fait tout simplement, très naturellement. Et il n'y a eu aucune embûche. Ça a été l'alignement des planètes.
Merveilleux. Alors, vous avez déjà répondu à une question que j'allais vous poser. Pourquoi à Revel ? Parce que quand on est passé par Paris, Aix-en-Provence, Toulon, la Bège, est-ce que c'est un enterrement d'aller à Revel ? Donc, il y a bien sûr un homme là-dessous. Si vous aviez été un homme, il y aurait eu une fin. Ça ne vous a pas inquiété de venir dans une petite ville ?
Parce que, pas du tout.
Combien d'habitants à Revel ?
10 000.
Oui. Ah, 10 000, c'est déjà quand même
c'est une,
bien.
C'est une jolie petite ville moyenne. Non, pas du tout. Je n'ai pas été inquiétée. Ça correspondait aussi à ce dont moi j'avais envie. Et j'en ai toujours envie. Les grosses villes, les vitesses sont différentes. Quand on est dans des grandes villes comme Toulouse ou comme Paris, tout va très vite. Il faut être rapide tout le temps. Et on n'a plus le temps, on ne prend plus le temps. Et j'avais envie de retrouver ce temps-là. Et quand j'ai observé, parce que j'ai quand même passé un an à observer la ville de Revel avant aussi de repérer la librairie, parce que je l'avais repérée avant de rencontrer la propriétaire. Et la façon dont les gens se déplacent et la façon dont je voyais le flux le samedi matin aussi pendant le marché, le fait qu'il y ait beaucoup de petits commerces aussi, d'artisans, j'ai pressenti que ça me correspondait et je pense que je ne me suis pas trompée.
Donc ce n'était pas véritablement un choc culturel ?
Pas du tout.
Vous avez de la concurrence sur Revel ?
Je ne sais pas si on peut appeler ça de la concurrence. Il y a Intermarché qui a un gros rayon livre, mais il n'y a pas de libraire. Donc non, dans l'absolu, je vais dire non. Il y a d'autres points de vente de livres, mais il n'y a pas d'autres libraires.
Donc, vous avez quasiment le monopole, c'est magnifique.
C'est presque ça, oui.
Et comment ça se passe depuis que vous êtes installée ? Ça fait combien de temps aujourd'hui ?
Ça va faire 5 ans. J'arrive à la fin de ma cinquième année.
Vous pouvez tirer un bilan.
Qui est très positif.
Qui est très positif.
Ouais, j'ai une clientèle extraordinaire.
Sont des fidèles ?
Oui, tout à fait. Oui, des fidèles. Et pour la petite histoire... Parce que j'ai été très très touchée et si ceux qui me connaissent ne l'ont pas encore entendu cette petite histoire, je pense que ça leur fera plaisir. Je parle de mes clients. Au moment où la librairie a fermé pour le Covid, ça a été du jour au lendemain, comme pour toutes les librairies et tous les commerçants qui ont dû fermer du jour au lendemain. J'avais à l'époque un petit carnet sur lequel je notais les commandes parce que tout était papier-crayon quand j'ai repris la librairie, il n'y avait pas d'informatique. Et j'avais 50 commandes. Le jour où j'ai appelé les clients, puisqu'on avait enfin l'autorisation de réouvrir les commerces, j'ai donc pris un peu les choses en avant. Je les ai appelés 15 jours, 3 semaines en leur disant « voilà, il faut relancer les commandes. Est-ce que vous voulez toujours la commande qui était en attente ?» Et il n'y a eu qu'un seul désistement, parce qu'elle était très pressée, il fallait absolument qu'elle ait son livre. Tous les autres clients, j'ai eu des retours, mais Blandine, quel bonheur d'enfin vous entendre, quel bonheur de savoir que ça réouvre. Ah, oh, Blandine, merci. Enfin, voilà, ça a été un moment très, très fort. Et ce moment très, très fort, ben, c'est ce qui continue encore aujourd'hui avec les clients qui sont là tous les jours.
Donc, il y a une vraie relation.
Il y a une vraie relation, oui.
Donc, ça a dû quand même vous changer, parce qu'quand on est à la FNAC, ce n'est pas du tout le même rapport.
Mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais créer une vraie relation. Je voulais avoir, au-delà d'une librairie, je voulais avoir une librairie de proximité, que les gens me connaissent. Donc, ils m'appellent tous Blandine. Je suis Blandine de la librairie et ils sont très à l'aise, ils viennent parfois juste pour dire bonjour, pour raconter un petit événement qui les a touchés aussi, mais c'est très bien, voilà. Il y a un réel échange et c'est un bel endroit, vraiment.
C'est un métier d'avenir, libraire.
Bah pour moi oui. Mais je ne pense pas que ce soit un métier qui soit amené à disparaître, hein, parce que les amoureux du papier resteront amoureux du papier. Et il faudra toujours des points de vente pour vendre ce papier et les belles lettres qui seront notées à l'intérieur.
Ah ben, des points de vente, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vendent des livres, mais ceux qui vendent n'est pas toujours... D'abord, ils ne savent pas ce qu'il y a dans les livres, la plupart. Ce sont des grandes surfaces.
Mais il y a aussi des points de vente qui ne sont pas des grandes surfaces. Il faut des grandes surfaces pour les gens qui sont pressés, parce que aujourd'hui, culturellement, il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui savent ce qu'ils veulent, qui rentrent dans une grande surface, qui vont chercher leurs livres et qui n'ont pas besoin d'avoir un échange quelconque avec un libraire. Et puis, il faut aussi, justement, des points de vente comme les petites librairies, comme ceux qui les défendent, avec des libraires qui lisent, qui font des choix de ce qu'ils mettent ou de ce qu'ils ne mettent pas dans leur librairie, et qui sont capables de proposer aussi à leurs lecteurs soit de changer de lecture, soit aussi de découvrir d'autres choses et qui ont cette culture-là. Mais je pense que... Malheureusement, aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, je dis malheureusement parce que c'est vrai que c'est dommage que les gens soient pressés et ne prennent plus le temps de rentrer en contact avec les gens qui sont en face d'eux. Mais il y en a beaucoup qui sont dans cette démarche-là, donc la librairie est amenée à perdurer.
Vous avez des lecteurs hommes, femmes
Tout.
Tout.
Il y a de tout, oui.
Quel que soit l'âge aussi, vous avez des jeunes qui viennent.
Il y a des jeunes, mais il y a une période de creux entre, je vais dire, 13 ans et 17-18 ans. Il y a un petit peu moins de clients jeunes dans cette tranche d'âge-là. Je pense que les écrans, les téléphones leur prennent beaucoup de temps. Souvent, après, ils y reviennent. Mais il y a quand même une clientèle de jeunes lecteurs, quand même.
Ce sont les hommes qui lisent le plus ou les femmes? Quand on est sur un salon, qu'on fait des signatures, ce qui m'arrive, 90% ce sont des dames d'un certain âge.
Oui.
Et c'est comme TF1, c'est la ménagère de plus de 50 ans, même clientèle.
Je vais dire que j'ai peut-être un petit peu plus de femmes dans ma clientèle, mais j'ai une très belle clientèle d'hommes quand même. Allez, on va dire 60-40. 60% de femmes, 40% d'hommes. J'ai quand même des hommes très lecteurs qui viennent. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils lisent à Revel ?
De tout. Vraiment. Vraiment, de tout. Non, j'ai pas de... Oui, vraiment, de tout.
Vous conseilleriez à un jeune de s'installer ?
En tant que libraire ?
Oui.
Bien sûr.
Le problème, c'est quand même le choix du lieu.
C'est ce que j'allais dire, oui.
De la taille de la librairie... C'est pas évident d'ouvrir une librairie sur une grande ville. Vous aviez évoqué Toulouse tout à l'heure. On a l'impression qu'il y en a, mais qui souffrent.
Ils sont peut-être un petit peu trop nombreux. je sais pas, où ils n'ont pas, ils ont pas, où ils ont pas trouvé le, où ils ont pas trouvé le bon emplacement.
Qu'est-ce qui est important, c'est l'emplacement.
La potentielle clientèle aussi. Enfin, quand j'ai passé du temps à observer aussi, je savais qu'à Revel, il y avait 10 000 habitants. Sur les 10 000 habitants, il y a toutes les catégories socio-professionnelles qui sont représentées. Il y a un lycée, un collège, il y a un lycée professionnel, il y a une médiathèque. Il y a quand même une vie qui est active. Il y a beaucoup d'entreprises. Je pense qu'il faut prendre le temps, il ne faut pas se lancer tête la première, il faut prendre le temps de savoir où on veut s'implanter et pourquoi on veut s'implanter.
C'est plus facile dans une ville moyenne comme Revel, où il y a peut-être moins de concurrence aussi.
C'est possible, oui, le fait qu'il n'y ait pas de concurrence, c'est quand même très important.
Il y a toujours des gens qui vendent des livres, on l'a dit, mais...
Oui, mais c'est important. Après, si concurrence il devait y avoir, je pense qu'on ne proposerait pas les mêmes choses non plus.
Il y a une ligne éditoriale quand on fait, si je puis dire, quand on fait une librairie, quand on monte une librairie, ou alors on est de suite généraliste. Il y a quand même, mais ça c'est dans les grandes villes.
Parce
des librairies spécialisées, notamment, je pense à une dans l'ésotérisme, par exemple.
Oui.
C'est des créneaux, des petits créneaux, mais ici ce ne serait pas possible.
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Très spécialisé comme ça, je ne pense pas. De mon point de vue, non.
On va parler de la librairie, bien sûr, mais avant, je voudrais qu'on écoute un peu de musique. Le premier morceau, c'est le vôtre.
Oui.
Vous l'avez choisi. Qu'est-ce que vous voulez nous faire entendre ?
Les canons de Pachelbel.
Pourquoi ce choix ?
C'est un morceau qui me suit depuis des années. Ma maman était mélomane, mon papa aussi d'ailleurs. Et j'ai écouté beaucoup de musique classique étant jeune, pas que. Hein. Je suis fan de Madonna aussi, donc... C'est mon côté obscur. Et du coup, ce morceau-là, je l'écoutais souvent le soir, entre autres avec Jean-Sébastien Bach. C'est ce qui me permettait de me mettre dans ma bulle et de lire quand j'étais plus jeune. Voilà.
Et dans la librairie, vous n'avez jamais eu idée de mettre de la musique, une ambiance musicale déjà, mais surtout, je pensais plutôt à vendre de la musique, à vendre des disques.
J'aimerais vendre des disques. Malheureusement, cet univers-là...
Des disques, oui, des CD, des...
Ben, je comprends bien. En revanche, cet univers-là est malheureusement très impacté par tout ce qui est dématérialisé. C'est très compliqué de... peut-être quelques vinyles pour faire des clins d'œil, pourquoi pas.
Le vinyle revient un peu quand même à la mode. On vend des vinyles, il y a des magasins aujourd'hui qui se sont re-spécialisés dans le vinyle. C'est vrai qu'écouter sur un téléphone et écouter un vinyle, ça n'a strictement rien à voir.
Le son est différent.
Ah, totalement, oui.
Oui.
Allez, on écoute les canons. Thank you. Voilà, c'était les canons de Pachelbel, le choix de ma... j'allais dire de mon invité, c'est plutôt moi qui suis invité chez elle, puisqu'elle me reçoit dans la librairie du Beffroi, Revette, sa librairie. Alors, parlez-nous de la librairie du Beffroi. Qu'est-ce que c'est que la librairie du Beffroi? Pourquoi du Beffroi d'ailleurs? Parce que c'est à côté du Beffroi, c'est ça?
Parce que c'est à côté du Beffroi, elle s'appelait comme ça.
Et vous ne l'avez pas rebaptisée?
Et je ne l'ai pas rebaptisée, je trouvais que c'était très bien de lui laisser son nom.
Donc, qui est quand même une ancienne maison qui a...
Ah oui, c'est une maison. Ben, alors, en tant que librairie, elle a au moins 80 ans.
Ah oui, c'est une maison bien assise.
Tout à fait. Elle a posé ses fondations il y a un petit moment.
Donc, ce n'est pas vous qui l'avez créée, ça?
Pas du tout. Moi, j'ai repris la librairie papeterie, parce que c'est une papeterie aussi, du Beffroi, il y a donc à peu près 5 ans maintenant.
Comment vous la décririez?
C'est un petit écrin. Elle est toute petite, je ne peux plus pousser les murs. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour rentrer un maximum de choses, pour avoir un minimum de choix à proposer au lecteur.
Quand même un bel emplacement, elle est à un angle.
Ah, elle est à un angle, elle est sur la plus belle place de France, devant un Beffroi magnifique. Le lieu de travail est juste magique. Je viens à pied tous les matins, je rentre à pied le soir. On peut manger le midi sur place dans des petits restos bien sympathiques. On est face au soleil en hiver, l'été un peu moins. Et non, c'est un très beau lieu.
C'est le paradis.
Oui, complètement, complètement.
Vous avez changé l'orientation de la librairie depuis que vous l'avez reprise, ou vous êtes resté dans le droit fil de ce que faisait la dame qui vous a vendu?
Alors, quand j'ai repris la librairie, il y avait très peu de livres à l'intérieur.
C'est curieux pour une librairie.
Oui, il y avait une petite sélection, mais j'ai triplé, je crois, la capacité en quantité de livres, ou même fois 4, je pense. Il y avait moins de 1000 livres quand j'ai repris la librairie. Après, je n'ai ni continué, ni j'ai rentré au fur et à mesure ce que moi j'avais envie de proposer aux gens. Et après, ce qu'on m'a demandé aussi, parce qu'on a une clientèle et on s'adapte aussi à ses désirs de lecture, tout en leur proposant plein d'autres choix. Et voilà, donc non, j'ai rempli avec moi.
Comment ça se passe? On remplit en fonction des goûts de ses clients ou alors des siens?
Les deux. Il faut les deux. Après, j'ai honnêtement une clientèle qui a de très bons goûts. Je ne peux pas dire autrement. Donc, je fais avec les deux, parce qu'il y a des choses aussi quand je travaille les offices où je me dis, tiens, ça, je sais que ça va plaire à tel client, ou tiens, ça, je sais que ça va lui plaire. Et après, c'est, tiens, celui-là, je vais le prendre parce qu'il va me plaire et que je vais pouvoir leur proposer et leur faire découvrir autre chose. Donc, c'est un...
Ça veut dire que vos clients vous écoutent, ils peuvent venir en vous disant, j'ai envie de lire, mais je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que vous conseillez?
Un client comme ça, il rentre dans la librairie, il me dit, il me faut de la lecture. Très bien. Je prends ce que je veux, ce que j'ai aimé, et je lui propose.
Et ça marche.
Ça a été rare. Oui, il y a peut-être une ou deux fois où ça n'a pas fonctionné, mais on peut pas non plus toujours savoir ce que l'autre a envie de lire. Mais il me fait une totale confiance. Il fait confiance à Sarah aussi aujourd'hui, qui m'a rejoint.
Alors Sarah, c'est votre collaboratrice, hein?
Tout à fait. Et il se laisse guider dans ses lectures. Parfois, il sait aussi ce qu'il veut. Il vient chercher des choses très précises. Mais il est trois quarts du temps, il rentre. On sait qu'il va falloir qu'on lui trouve quelque chose à lire.
Alors, vous conseillez les livres. Pour les conseiller, il faut les avoir lus. Les libraires, ils n'ont pas le temps de lire, paradoxalement. Parce que c'est quand même un gros travail, déjà, de manipulation, de commande, de retour. Ouais. Comment vous arrivez à vous organiser?
Ces derniers temps, avant que Sarah arrive, je dois dire que je ne lisais plus beaucoup de livres en entier.
C'est frustrant, ça.
C'est très frustrant. Mais j'avais pas le temps. D'abord parce que mon esprit était pris par tout ce qu'il y a à gérer, comme on dit, en back-office. Dans la librairie aussi, comme tu l'as dit, les vider les cartons, faire les réceptions, prévenir les clients, faire les commandes, et puis après, il y a le tri des papiers, etc. etc.
Donc, on n'a pas le temps de lire.
Donc, on a le temps de lire. Après, c'est est-ce qu'on est disposé à lire ? Parce que moi, honnêtement, le temps, j'aurais pu le prendre, mais je n'avais pas assez de place dans mon esprit pour être... Enfin, j'avais pas l'esprit libre pour la lecture, tout simplement.
Faites des notes de lecture pour... Oui. On en voit dans certaines librairies.
Oui, oui. Oui, oui. Alors, les notes de lecture, elles sont posées sur les livres qu'on a lus de A à Z, ou Sarah ou moi. Et depuis que Sarah est revenue, je reprends du plaisir à la lecture parce que forcément, le travail est partagé. Sarah lit beaucoup aussi. Et à toutes les deux, on arrive à lire quand même pas mal de livres et à pouvoir en parler aux clients.
Qu'est-ce que vous lisez de... Il y a des romans, il y a des essais, de l'histoire, il y a de la philosophie, il y a un peu de tout. Comment vous opérez le choix de ce que vous allez lire, sachant que vous pouvez lire des fois en partie et bien sûr pas la totalité ?
Alors, ce que je vais lire, quand j'ai un choix de lecture, ce sera de toute façon du roman. Tout ce qui est politique, philo, je vais lire des passages, mais je ne lirai pas forcément en entier. Même si on est une librairie généraliste, on est quand même beaucoup plus axé sur tout ce qui est roman, polar, littérature en tout cas. Après, c'est au coup de cœur, au moment où on lit la quatrième de couverture, ou quand on ouvre le livre au milieu et on lit quelques phrases et on se dit « Ah, ça, je sais que ça va me plaire, ça va m'emmener, celui-là, je vais le prendre en priorité, ou celui-ci, ou celui-là ». Parfois, on a des services de presse aussi, qui nous permettent de découvrir les livres en amont.
Les éditeurs font, enfin ils ont des relais, des diffuseurs, des distributeurs.
Oui.
Ils vous parlent de leurs livres, ils vous appellent, ils viennent vous visiter.
On a des visites. Je suis enchantée des représentants qui viennent présenter les futures sorties parce que souvent ils ont lu les livres, très souvent, et ils savent en parler et. Donc on a des échanges aussi en amont sur celui-ci, tu devrais le prendre, t'as mis zéro, mais honnêtement, il est très très bien, ça va plaire à tes clients aussi. Je t'envoie un service de presse, donc on peut le découvrir aussi. Il y a un chouette échange. Enfin, personnellement, ici, on a un chouette échange avec les représentants.
Vous vous limitez dans ce que vous achetez, parce qu'une rentrée littéraire, globalement, ça va tourner autour de 500 livres.
C'est complètement limité. De toute façon, dans 25 mètres carrés, je n'ai pas la place de rentrer les 500 livres de la rentrée littéraire, sachant qu'en plus, il y a tout ce qui va à côté.
Ouais, enfin, sur les 500, il y en a 450 qui vont repartir au pilon, mais...
Bon. Oui, mais donc, on fait un choix, bien sûr qu'on fait un choix. On fait un choix. On fait un choix en fonction des lectures qu'on aura faites, des SP aussi. Parce que parfois, on ne commande pas. On a un service de presse qui arrive et puis c'est le coup de cœur absolu. Donc, on le remet vite au moment de la sortie parce qu'on était passé à côté. On fait un choix aussi en fonction de la demande aussi parce qu'il n'y a rien à faire. On ne peut pas passer à côté d'Amélie Nothomb, de Tesson, de certains grands noms qui vont être de toute façon demandés et lus par beaucoup de lecteurs. Donc il y a le choix et puis il y a ce qui va s'imposer aussi.
Il y a les coups de cœur.
Ah oui, oui.
Il y a eu des livres qui n'avaient été remarqués par personne, mais que les libraires ont sorti de l'oubli.
Oui.
Il y en a un qui s'appelle, je ne me souviens plus, c'était Muriel, le hérisson, l'histoire du hérisson.
Le hérisson, ouais.
Oui,
ouais.
J'arrive
de
pas
Muriel
à retrouver
Barbery.
Le titre de Muriel Barbery,
ouais.
Qui a été finalement mis en avant par les libraires et qui en ont fait un véritable succès de librairie.
Ouais. Nous aussi, on a eu notre petit coup de cœur comme ça.
Oui, ça doit
ouais.
arriver.
Ouais,
et
ça arrive.
Les clients vous suivent.
Ah oui, complètement.
Alors les jeunes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici ? Vous disiez, j'ai une clientèle de jeunes avec un certain trou à partir du moment où ils sont addicts aux écrans.
Oui.
Les écrans, c'est un véritable danger
oui.
pour la lecture, pour l'intellect, presque pour la démocratie aussi.
Même plus pour l'intellect, je pense, parce que moi, de la lecture via les écrans, on peut en avoir aussi. Donc, mais pour l'intellect, ça ne développe pas... Ça ne développe pas grand-chose, quoi.
Et la qualité de lecture n'est pas du tout la même, très curieusement, sur un écran.
Non, non plus. On n'a pas la même concentration, on n'a pas...
Vous avez vendu le livre de Gérald Bronner, Apocalypse cognitive ?
Oui.
qui est un livre qui s'est très très bien vendu et qui décrivait admirablement le phénomène, qui était même un cri d'alarme d'ailleurs.
Mais pas que lui, il y a eu d'autres auteurs qui ont sorti des livres autour de ce sujet-là et on les a on les a vendus ça
quand même du Poisson Rouge de Patineau, le patron d'Arte,
il y en a un autre et j'ai oublié son titre.
Ah, c'est pas grave, vous pouvez pas tous les retenir. Et alors ces jeunes, ils vous demandent, ils viennent chercher quelque chose en particulier.
Alors ceux qui lisent encore sont souvent, lisent souvent du manga.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Manga, BD.
Manga, BD. Alors il y a des très bonnes BD. Donc quand ils lisent du manga ou de la BD qui est un peu plus simple, on va essayer de les diriger selon leur âge vers du roman graphique qui va être un petit peu plus construit, un peu plus intéressant que des simples BD humoristiques. Même si c'est bien de lire de la BD humoristique, mais histoire d'un peu de leur ouvrir les horizons.
Qu'est-ce que c'est la BD humoristique pour vous ?
Ce qu'on va vendre souvent, c'est les kids paddle, c'est très rigolo, c'est plein d'humour, mais c'est bien aussi qu'ils lisent d'autres choses, qu'ils lisent des choses qui vont ouvrir. Enfin, je pense aux enfants de la résistance, par exemple, c'est exactement la même tranche d'âge. Les kids paddle, ça va être très bien pour rire, pour vider son énergie, Et après, on a les enfants de la résistance qui va être une super chouette BD historique. C'est un club des cinq, je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment un club des cinq, mais des gamins qui vivent des aventures au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et je connais pas d'enfant aujourd'hui qui soit revenu en me disant ça m'est pas plu. Donc, il y a la possibilité de faire découvrir des super BD. Soit historique ou avec une vraie histoire construite, mais qui sortent un petit peu de la facilité, du rire et de la détente. Souvent, les enfants, quand ils viennent chercher des livres, c'est sourire et détente. Donc après, c'est leur aller les amener vers autre chose. Et ça, c'est notre rôle à nous, leur faire découvrir d'autres choses.
Vous vendez des BD ?
Oui.
Il n'y a pas que les jeunes qui achètent les BD aujourd'hui.
Non, on a des adultes aussi, bien sûr.
Des BD absolument magnifiques. Oui. On ne va pas citer les titres, mais des choses. Beaucoup de gens achètent des BD.
Oui.
Il y a un très fort marché là-dessus.
Tout à fait.
Et même Revel, ça fonctionne bien.
Oui. Alors, ça fonctionne bien. Quand on voit la taille du rayon, ça fonctionne très bien.
Oui.
Trois étagères de BD, enfin adultes, romans graphiques. Alors, on fait une sélection, nous, par rapport à ce qu'on aime graphiquement et par rapport à ce qu'on va avoir comme planche au moment de la commande. J'ai une vraie clientèle de lecteurs de BD. Souvent, ça passe par leurs commandes. Ils ont des demandes très spécifiques. Donc, Mais on a aussi une belle clientèle en BD.
Comment vous gérez votre stock là ? Parce que c'est un volume énorme. Le livre. Alors, vous recevez des livres, vous ne les vendez pas tous, vous avez des invendus, vous les renvoyez, il y a une manipulation colossale, il faut de la superficie pour avoir un stock.
Alors, il n'y a pas beaucoup de stock, du coup. Ça va très vite.
Ça tourne vite, le
livre ? Ça tourne vite.
C'est-à-dire que quand on sort un livre, il faut l'acheter parce que sinon, on risque de ne pas le retrouver.
Alors, oui et non, parce que je vais parler vraiment pour la librairie du Beffroi, on a 25 mètres carrés dans lesquels on rentre tout. Tous rayons confondus. Donc forcément, il y a des livres qui ne vont pas se vendre. Ceux qui ne se vendent pas partent dans les étagères du stock qui sont au-dessus de la librairie. On ne les renvoie pas tout de suite. On les garde. Ils ne seront pas dans le magasin, mais on les garde. Si on a une demande, ils sont toujours là. En revanche, à un moment donné, vu que les stocks ne sont pas non plus très très larges, mais finalement, les livres restent rarement plus d'un an dans la librairie.
Non, c'est déjà quand même pas mal, il faut pouvoir les stocker.
Ils s'en vont, et puis après, ce qui ne part pas est vendu, de toute façon, il y a peu de choses qui ne se vendent pas. Quand ils sont rentrés dans la librairie, ils ressortent.
Ils ressortent dans les mains du client.
Dans les mains du client, tout à fait.
Qu'est-ce qui est le grand plaisir d'un libraire, vos plaisirs, qu'est-ce que c'est ? Quels sont-ils ?
Les partages qu'on peut avoir avec les clients. Les moments de, je vais mettre enfin, je vais même utiliser ce mot-là, des moments d'intimité avec certains clients où on va parler d'un livre, d'une histoire, mais qui vont nous ramener à quelque chose de personnel. Et à ce moment-là, on est presque dans un salon, l'un avec l'autre, et on se raconte énormément de choses. Et ces moments-là, ils sont précieux.
Donc, ça veut dire que des clients qui ont lu un livre et qui vont revenir vous en parler éventuellement.
Oui, tout à fait. Ouais. Et on leur demande.
Il faut qu'ils rendent compte. Est-ce que vous l'avez lu?
Non, est-ce que vous l'avez aimé? Vous nous raconterez si vous l'avez aimé.
Et le pire du métier, qu'est-ce que c'est?
Le pire du métier? Non. Non, j'ai pas de pire. Aujourd'hui, dans mon métier...
C'est que du bonheur partout.
Pour l'instant, oui. Ouais. Et j'espère que ça va durer. Ouais.
Il n'y a pas de raison.
Ouais.
Il n'y a pas de raison. Donc, si c'était à refaire, vous referiez...
Ah, je signe tout de suite.
Ce type de métier, vous repartiriez.
Oui.
Vous trouvez que... Il y a beaucoup de maisons d'édition. Vous les connaissez toutes globalement
ou
pas? Non. Parce qu'il y a les très grandes qui sont très connues. Et après, il y a une foultitude de maisons. Beaucoup de gens s'intitulent, se parfument du titre d'éditeur, alors qu'en réalité, ils aiment peut-être les livres, mais ça ne va pas plus loin. C'est un métier d'être éditeur.
Je pense que c'est un métier très spécifique.
Oui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Ils ne connaissent absolument pas, ils ne savent pas le faire.
Ah, probablement aussi. J'en connais pas beaucoup, je dois pas travailler avec eux.
Bon, on va dire ça comme ça pour
elle. Non, mais c'est vrai, je travaille quand même avec quelques petites maisons d'édition. Et jusqu'à présent, ces petites maisons d'édition ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Après, peut-être
la
que
taille,
je suis pas...
La taille ne veut rien dire, il suffit qu'il y ait véritablement quelqu'un du métier et qui sache faire, qui sache voir la qualité d'un texte, qui sache aider son auteur aussi, qui fasse une équipe avec son auteur.
Bien sûr, oui.
Le guider, l'encourager aussi, c'est important.
Ouais.
Mais tous ne le font pas. Beaucoup d'éditeurs qui ne lisent pas ce qu'ils publient.
Ce qu'ils publient.
Un peu dommage quand même.
Oh, c'est dommageable complètement, mais après... probablement, on travaille de moins en moins aussi avec les maisons d'édition en direct, qui sont souvent distribuées par des très gros fournisseurs. Donc, est-ce qu'on connaît vraiment tout le monde dans les maisons d'édition? Non.
Vous voyez beaucoup de représentants, enfin, je ne sais pas comment on les appelle,
les représentants,
ils viennent régulièrement.
Mais en fait, les représentants sont les représentants de gros fournisseurs qui distribuent beaucoup de maisons d'édition. Donc, eux aussi ont du... Enfin, ils ont du pain sur la planche. Comment dire, un fournisseur, aujourd'hui, il a peut-être 300 ou 400 maisons d'édition. Je veux dire, c'est un chiffre qui peut paraître énorme, mais... Entre les toutes petites, les moyennes et les grandes, fournisseur, il fournit énormément de maisons d'édition. Donc, on n'a pas forcément de contact direct avec la maison d'édition. On travaille plus spécifiquement avec certains fournisseurs. Et quand on travaille avec certaines petites maisons d'édition en direct, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas encore vécu de déception assez forte pour que ça m'ait marqué au point de me dire ni le livre n'a ni été corrigé, ni lu, ni... Enfin, voilà.
Les goûts des clients, est-ce qu'ils sont vraiment des amoureux de la littérature aujourd'hui? Est-ce que l'éducation nationale fait son rôle, c'est-à-dire amener les gens à la lecture et à la belle lecture? Ou alors, ils se sont formés un peu sur le tas, c'est devenu un peu des autodidactes de la lecture?
Il y a les deux. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense qu'il y a des gens qui sont blasés, qui ne font plus d'efforts, malheureusement pour les élèves, enfin des gens, des professeurs, qui font partie de l'éducation nationale. Et puis il y en a d'autres qui sont toujours aussi émerveillés, qui ont toujours l'envie d'apprendre à leurs élèves. Je suis en contact avec des professeurs qui sont encore passionnés par leur métier et qui ont vraiment envie. Après,
oui,
est-ce qu'on leur donne complètement les armes? Est-ce qu'on les accompagne correctement?
Chez les professeurs, bien sûr qu'ils ont, la plupart, c'est quand même un peu une vocation aussi.
Parce mais oui, complètement.
Il faut pouvoir le faire.
C'est pour ça.
Dans les conditions dans lesquelles ils travaillent, avec le public qu'ils ont et les salaires qu'ils ont.
L'accompagnement n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, probablement.
L'auto-édition, ça vous inspire quoi? Vous en vendez?
Un petit peu.
Pour faire plaisir. À l'auteur, bien sûr.
Pour soutenir, plus que pour faire plaisir. Parce qu'on soutient. Enfin, après, tout dépend aussi de ce qu'on est venu nous proposer. Je prends pas. Enfin, tous les auteurs qui viennent ne sont pas forcément dans la librairie non plus. Je soutiens l'effort de l'auteur qui a combattu, le parcours du combattant, parce que c'est compliqué. Après, il m'est arrivé de refuser et d'appeler aussi des gens pour leur dire que non, c'est pas la peine qu'ils se déplacent, qu'on ne proposerait pas leur livre. Ça m'est arrivé. Parce que trop de fautes, pas assez de corrections. C'est compliqué d'auto-éditer un livre, hein. De s'auto-corriger,
Beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont des génies méconnus. Donc,
il y a
le prurit de l'écriture aujourd'hui. Il y a plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent, dit-on. Je ne sais pas si c'est vrai.
Aussi. Oui, il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui se lancent là-dedans. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas proposer.
Voilà, je pense aussi. On fait une deuxième pause musicale. Celle-là, c'est moi qui l'ai choisie. Moi, je vais vous faire écouter Pahamat, je ne sais pas si vous connaissez Pahamat, Jean-Paul Raffit, qui vont nous jouer, nous chanter Ndumbo Ndiaye. Pahamat, comme son nom ne l'indique pas, est ariégeois, et Jean-Paul Raffit aussi est de la région, mais ce sont un groupe qui tourne beaucoup, et j'aime beaucoup ce qu'ils font. D'ailleurs, je vais les recevoir en quelques temps. Donc, j'aurai l'occasion de parler de leur musique avec eux. Alors, ça s'appelle Ndumbo Ndiaye.
Tele mande maraja folendambi jebe kan jerete alu wolembe folendumbo samaningeje folendumama alu wolembe folendumbo kibaro wele folendumbo alu wolembe mumunu njay a folendumbo Sali unjai wo itali jereti, sani njai wo mending kebe, kubaru wo jele alu wo dembe, moilendumbo ya yo kebe, moilendumana alu wo dembe, moilendumbo subaru wo jabi, moilendumbe alu wo dembe.
Voilà une musique que vous pourriez vendre, Blandine Châtenay, à la librairie du Beffroi. Hein.
Tu veux ouvrir une succursale?
Oui, je crois qu'il est vrai. Il faudra mettre un peu de vinyle dans tout ça. Alors, revenons-en à vous. Quand vous n'êtes pas libraire, quand vous n'avez pas votre casquette de libraire, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des temps de liberté?
Depuis qu'il y a Sarah, un petit peu plus, oui.
Oui, quand on est deux, c'est quand même plus facile.
C'est plus facile.
Et les heures d'ouverture, on n'en a pas parlé. Vous êtes ouvert 6 jours sur 7?
Non, on est ouvert 5 jours sur 7, du mardi au samedi, de 9h à midi, de 14h à 19h en semaine, et le samedi de 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h.
Donc vous avez 2 jours pour vous finalement,
oui.
Que vous consacrez peut-être quand même en partie toujours à la librairie, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Depuis que Sarah est là, ça va mieux. Un petit peu le lundi, mais quand même moins qu'avant, 1 ou 2 heures le lundi.
Bon, alors qu'est-ce que fait une libraire quand elle a du temps de libre?
Quand elle a du temps de libre.
Lit?
Alors elle lit. Parfois elle a le temps d'aller monter à cheval.
Ah bah ici à Revel, il y a de quoi faire quand même.
Voilà. Elle a commencé des cours de pilates aussi. Elle va de temps en temps au cinéma. Elle marche, enfin, des expositions, elle écoute de la musique, enfin, voilà.
Elle fait ce que fait tout le monde.
Exactement.
Hein, voilà. Une œuvre d'art qui vous a particulièrement marqué?
Alors, il n'y en a pas une. Ce sont les œuvres de ma maman qui était peintre, hein, qui était artiste peintre. Et je peux même citer celle de mon papa, puisqu'il a aussi fait de la peinture.
Et vous, ça ne vous a pas donné le virus?
Pas du tout.
Non, rien du tout.
Non, le pinceau, ça m'a donné peut-être un œil critique, ou en tout cas une certaine culture de l'esthétique. Mais non, pas du tout. Moi, je me suis essayée un peu à la sculpture, là, les deux petites sculptures qui sont... Alors, pas la tête, mais les deux sculptures qui sont sur le côté.
Je les vois, c'est pas très radiophonique, mais effectivement...
Non, voilà.
Je veux dire qu'il y a des... J'ai cru que c'était des gros morceaux de savon, hein, quand
Eh bien, voilà, ce ne sont pas des morceaux de savon. C'est un travail autour de l'ombre et de la lumière.
D'accord.
Voilà.
Avec l'explication, ça va mieux.
Ça va mieux. Mais c'est tout. Sinon, non. Après, c'est vraiment, oui, les œuvres de ma maman.
Et le moment particulier qui vous a marqué tourne aussi autour de votre maman.
Mais ouais, c'est son décès, j'avais 17 ans. Donc,
Il est quand même très jeune pour perdre sa maman.
C'est jeune, ouais. C'est jeune. On n'est pas paré à ça, du tout. Donc forcément, ça a un impact, sur ce qu'on devient et sur ce qu'on a été avant aussi.
Alors, à part votre mère, qui c'est qui vous a marqué, qui vous a inspiré, qui a été peut-être une espèce de mentor dans votre vie?
Ah, ben c'est la personne qui m'a recrutée à la FNAC, Caro, qui a été ma responsable pendant quelques années et qui m'a permis de me réaliser, en tout cas professionnellement parlant. Puis après, on avait des conversations autres que professionnelles, donc oui, elle a été importante pour moi. Et puis, ma maman de cœur, donc celle qui a décidé que j'étais sa fille à partir du moment où ma maman est décédée.
Ah, c'est bien ça de se retrouver. En plus, c'est un choix réciproque finalement.
Complètement.
Vous êtes choisie toutes les deux.
On s'était choisi, ouais. Qui m'a quittée depuis, parce qu'elle est décédée aussi malheureusement, mais ça a été une personne très importante aussi dans ma vie.
On est dans une librairie, on a beaucoup parlé de livres, et puis on va finir en parlant de livres. Et je fais la demande que je fais à tous mes invités, parlez-moi d'un livre qui vous a marqué. Alors pour vous, c'est peut-être un peu compliqué, vu la multitude.
Donc j'ai pris ma dernière lecture.
Et quelle est-elle alors?
Alors c'est Zori, de Laird de Hunt, qui est un auteur américain. Qui dans sa jeunesse universitaire a étudié la littérature française, et je pense que c'est ce qui l'a mené à rendre hommage, si l'on peut dire, à Un cœur simple de Flaubert, au travers de son histoire, au travers de la vie de Zori. C'est un très joli texte. On traverse le XXe siècle en accompagnant Zori, qui est une femme forte, qui va travailler toute sa vie et qui va en même temps accompagner énormément de gens, et parce qu'elle a le cœur ouvert aux autres. Et c'est une grande dame, mais une grande dame du quotidien, qui est inconnue de tout, enfin qui n'a pas un nom, qui n'est pas, mais voilà, qui est très attachante et qui a vécu une vie somme toute tout à fait tranquille. Mais le verbe de l'auteur est très beau, on frôle la poésie, on a de très belles images. Enfin voilà, c'est un très très beau texte. Je me suis vraiment très belle lecture.
Édité par qui ?
Édité chez Globe.
Voilà, écoutez, rappelez le titre alors.
Zori.
Zori, Z-O-2-R-I-E.
Oui.
J'avais jamais entendu ce nom.
Voilà, moi non plus.
C'est un auteur anglais ?
Américain.
Américain. Mm. Et la traduction de qualité ?
Oui, tout à fait.
Il y a des fois quelque chose qui pêche.
Oui.
Alors moi, je vais vous parler de quelqu'un dont on parle souvent sur Esprit Occitaniste, François-Henri Soulier, de son dernier Les Pirates de Dieu. Alors François-Henri Soulier, c'est un personnage, hein, avec un grand P, homme de théâtre, écrivain, comédien, marionnettiste, scénographe, metteur en scène, il a fait aussi des scénarios, et puis, un peu sur le tard, il s'est mis à écrire, et ça a fonctionné de suite, hein. Il a écrit beaucoup de choses, notamment, il aime bien le roman historique qu'il avait écrit avec Thierry Bourcy, Le songe de l'astronome, La conspiration du globe, Ils ont tué Ravaillac, etc. Et puis dans la collection 10-18, il s'est lancé dans une trilogie, Angelus, Magnificat et Requiem, qui ont bien fonctionné. Là, il vient de nous livrer le dernier, Les Pirates de Dieu, que je suis en train de lire. Alors, je ne peux pas vous dire, le début m'enchante, je n'étais pas très inquiet. Je pense même que c'est peut-être encore plus fort que ce qu'il avait fait jusque-là. En tout cas, le roman historique, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a une recherche à faire. Et comme c'est un garçon qui aime bien la précision, C'est aussi délicat le roman historique parce qu'on va sur les terres des historiens qui ne vous loupent pas au passage. Donc il faut faire quand même très attention. Alors là, on se retrouve à l'époque romaine, hein, des chrétiens qui ont été assassinés à Jérusalem. On est au temps de l'empereur Constantin qui utilise le christianisme et qui va en faire la religion officielle. Et il va envoyer son conseiller privé, qui est Aurelius, élucider ses crimes. Il missionnera en même temps sa mère, qui est la vieille Héléna, en fait, qu'elle retrouve les reliques de la Passion du Christ. Alors, ça se bâtit autour de ça, dans le bassin méditerranéen, je ne vous en dis pas plus. Je n'en suis qu'au premier tiers, mais d'ores et déjà, moi, je suis conquis. Bon, j'aime beaucoup ce qu'écrit François-Henri Soulier, je suis peut-être un peu partisan, mais je crois qu'il va ravir beaucoup de monde et qu'il va en faire rêver beaucoup. Je vous le rappelle le titre, Les Pirates de Dieu, de François-Henri Soulier, chez 10-18, et qu'on trouve, bien sûr, j'imagine,
à la librairie du Beffroi
Revel, qui m'a reçu pour cet entretien, pour nous parler un peu de cette librairie, puis du métier de libraire, avec l'avantage, c'est que vous êtes une vraie libraire, si je puis dire, puisque vous l'exercez depuis extrêmement longtemps, vous l'avez exercé dans des grandes maisons, maintenant vous l'exercez chez vous. C'est un autre exercice, mais ce qui fait plaisir, c'est que ça a l'air d'être votre passion et vous avez l'air de vous y réaliser pleinement et d'être tout à fait heureuse de votre sort. Donc, voilà, c'est toujours très agréable d'avoir une invitée qui est très à l'aise dans ses baskets. Merci Blandine Châtenay, longue vie à la librairie du Beffroi, hein, qui certainement évoluera dans les années à venir.
J'espère.
Voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et ben, les Revellois ont beaucoup de chance d'avoir une libraire proche d'eux. Et
j'ai de la chance de les avoir aussi.
Voilà, ben, écoutez, tout va bien. Merci Blandine Châtenay.
Merci.
Voilà, vous savez tout de la librairie du Beffroi et de sa si sympathique et si compétente propriétaire Blandine Châtenay. N'hésitez pas à aller la visiter si vous êtes de passage dans la bonne ville de Revel. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique Léo Touroule que je remercie. Vous pourrez bien sûr retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.